Il a beau avoir près de 110 ans, Science & Vie n'avait pas connu de crise aussi sévère depuis sa création en 1913. Crise éditoriale suscitée par le rachat du titre par le groupe Reworld Media, crise au cours de laquelle son rédacteur en chef a démissionné, c'était l'an dernier, suivi en début d'année par la quasi-totalité de la rédaction. Quelques journalistes sont restés pour tenter de tourner la page. Ils ont continué à produire ce mensuel, le plus diffusé en France, à leur tête. Un nouveau rédacteur en chef qui travaille à une nouvelle formule du magazine. Bonjour Thomas Cavaillé-Foll.
Bonjour.
C'est donc vous, le nouveau rédacteur en chef de Science & Vie, ascension éclair. Il y a un an et demi, vous n'aviez aucune responsabilité au sein de la rédaction. Vous êtes devenu chef de rubrique en avril 2020, après le rachat par Reworld Media, puis rédacteur chef adjoint après le départ de la quasi-totalité de la rédaction, et donc rédacteur en chef au début du mois. Question simple, quelle est votre feuille de route ?
Déjà, c'est ressouder un peu la rédaction, forcément, parce que nous allons recruter. Du coup, nous sommes en train de recruter deux adjoints. Intégrer de plus en plus nos journalistes pigistes qui sont très expérimentés, qui étaient, mine de rien, jusqu'ici mis un peu à l'écart avec cette rédaction qui était très, très soudée. Et puis, repenser une nouvelle formule à l'automne, là.
Vous dites vouloir donner un petit coup de fouet au magazine. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, un petit coup de fouet ?
À la lecture du magazine, moi je trouve qu'il y a des choses qui marchent très très bien. C'est un excellent magazine, les dossiers, les actus, il y a des choses qui marchent très bien et d'autres qui sont pour l'instant un peu, je trouve, qui ne marchent pas, tout
par
simplement.
Exemple
je sais pas, on a quelques pages en sciences et sociétés, je trouve qui ne laissent pas assez de place. On a notamment une rubrique qui s'appelle En débat. Pour moi, elle est trop faible, celle-ci. Aussi, nous réfléchissons à la possibilité de plus ouvrir quelques pages ou quelques rubriques au monde scientifique directement, intégrer, c'est pour ça que nous avons créé le comité scientifique de Reworld Media.
On va
en parler
après du comité scientifique, ouais.
Écoutez, c'est en pleine réflexion en fait, nous vous ferons la surprise en automne, on va pas toucher au cœur de Science & Vie parce que ce magazine marche bien, mais ça fait quand même 4 ans maintenant que cette formule existe,
ouais.
C'est un long temps.
Vous avez dit que le magazine était vieillissant, c'était dans la correspondance de la presse le 4 juin dernier. Ça veut dire quoi dans le détail vieillissant concrètement ?
Je trouvais que moi...
Vous êtes jeune, d'un mot, vous avez quel âge ?
J'ai 33 ans.
Ce qui est quand même très très jeune pour un rédacteur en chef d'un magazine de cette importance,
tout
même pour
fait.
Un rédacteur en chef tout court déjà.
Bien sûr, oui.
Ouais. Vieillissant dans le détail, ça veut dire quoi ?
Je trouvais qu'on est... On avait tendance à être très entre soi et de faire un magazine un peu pour nous avec l'ancienne équipe. Il y avait effectivement beaucoup de... On challengeait beaucoup nos propres sujets et j'avais l'impression... moi, quand je parlais à ma génération de Science & Vie, tout le monde me disait « Ah, j'adore Science & Vie, mais je le lis pas,
ouais.
Parce qu'il est un peu barbant.
Ouais. »
Et je trouvais que, effectivement, à trop se challenger, à trop se fermer, comme l'était un peu la rédaction avant, on avait tendance à faire un magazine pour nous-mêmes.
Quelles seront alors justement les grandes lignes de la prochaine formule ?
Ça, je ne peux pas vous en parler tout de suite, je suis désolé. On est en train de réfléchir.
Vous êtes en train de travailler, vous le gardez pour vous ? Vous savez déjà, et vous ne voulez pas le dire, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas encore totalement arrêté ?
C'est pas encore totalement arrêté, parce que, comme je vous le dis, il y a des personnes qui vont nous rejoindre très bientôt, et que j'aimerais intégrer, bien entendu, dans cette aventure. Donc, on est en train d'avoir plein d'idées, et puis de travailler dessus.
Alors, on va parler d'ouverture. Dans le dernier numéro, celui de juin, il y a des sujets pointus. Un dossier sur les rétrovirus endogènes pour soigner les maladies neurologiques. Un autre sur le nom magique de l'univers, par exemple. Et puis, il y a aussi des sujets plus légers, traités dans de courts articles, par exemple. Exemple, produits laitiers, faut-il s'en méfier ? Ou encore, l'exercice durant la grossesse, c'est aussi bon pour le bébé, je ferme les guillemets, sont des sujets qu'on s'attendrait à trouver davantage dans des news magazines ou dans des magazines féminins, sans que ces termes soient péjoratifs, mais pas dans un magazine scientifique. Est-ce que vous allez les garder dans la nouvelle formule ?
Alors ça, je vous arrête tout de suite, ça a toujours été dans Science & Vie, ces sujets-là.
Ouais.
Vous parlez probablement de la dernière rubrique,
oui, oui.
C'est les bons à savoir. Non, ce sont des sujets de la vie quotidienne qui ont toujours eu leur place à Science & Vie, et je pense que...
Ça va la garder.
Ils n'ont pas vocation à être enlevés, non.
Alors, vous nous parliez d'un comité scientifique. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? D'abord, quel est son but et de qui sera-t-il composé ?
Alors, on sait déjà de qui il est composé. Il y a plusieurs personnes, une dizaine, une quinzaine même, de scientifiques et d'ingénieurs qui viennent de partout, enfin de tous les milieux en fait. La première réunion a eu lieu jeudi dernier. Nous avons passé l'après-midi à discuter avec ces acteurs du monde de la recherche.
Alors j'ai quelques noms, Jean-François Clairvoy, l'ancien astronaute, Philippe Charlier, médiatique, médecin légiste, qui a co-présenté notamment le magazine de la santé, ou Marie-Lou Patou-Mathis, qui est préhistorienne.
Marc-André Sellos, qui est
quel sera leur rôle alors dans le magazine?
Eh bien, en fait, ils n'ont pas forcément un rôle dans le magazine, pour l'instant en tout cas.
Ils ont un rôle d'image alors?
Non, pas du tout. En fait, c'est pas ce comité. L'idée a germé bien avant tous les récents événements. Donc c'est pas un rôle d'image. On avait besoin en fait de moderniser un peu la relation que Science et Vie a depuis plus d'une centaine d'années avec le monde de la recherche. Mmh. Généralement. Ce qu'on faisait, c'était prendre notre téléphone et appeler tel chercheur pour tel domaine, pour tel sujet. Nous, on avait envie de prendre un peu de recul là-dessus et de réfléchir un peu à l'importance de la vulgarisation et aussi de réfléchir à des grands sujets avec eux pour faire émerger peut-être des articles insoupçonnés ou des angles. Et ça a été très fructueux. On a passé une très bonne après-midi et il est sorti effectivement des idées ici et là pour remplir notre magazine, ce qui va être super.
Votre objectif, c'est lequel? C'est redresser l'image, c'est redresser les ventes, c'est les deux?
L'image, elle a pas tant souffert que ça, moi je trouve. En fait, elle n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de remettre un peu d'image, puisque c'est encore les mêmes journalistes qui écrivent dans Science et Vie. Non, moi j'ai envie de continuer.
Vous avez quand même été attaqué par plus d'une centaine de scientifiques et d'universitaires. Je me souviens de cette lettre ouverte. Oui, enfin reproché, je vais retrouver exactement ce qui avait été dit, parce que je l'ai pas. Il faut que je trouve ma page exactement, mais il y a eu quand même un déficit d'image.
Écoutez, moi je pense que il n'y a pas lieu d'avoir un déficit d'image, vu que c'est encore les mêmes journalistes scientifiques qui remplissent nos pages. Le travail il est toujours fait avec passion et rigueur. Ouais. Donc c'est dans les kiosques et dans les pages que notre image va se jouer.
Il y avait quand même un collectif de 300 universitaires, je viens de retrouver mes notes, de 300 universitaires et scientifique avait publié une tribune dans Le Monde en décembre dernier.
Oui, mais qui disait ne touchez pas à Science et Vie, et Science et Vie va très bien. Donc finalement.
Oui, mais il a été touché.
Pas plus que d'autres rédactions n'ont été touchées. Je veux dire, c'est la vie courante et normale d'un journal que d'avoir de temps en temps des renouvellements de la rédaction. Ouais. C'est même ça, je trouve, dans l'histoire d'un journal. Si rien ne bouge, en fait, un journal meurt.
Les ventes, à combien sont-elles et quel objectif visez-vous?
Alors, les objectifs, c'est toujours mieux.
Ouais,
c'est les ventes, au numéro en kiosque, on est à 25 000, je crois, le mois dernier, ce qui est un très bon score.
Mm-hmm. 140 000 abonnés, c'est ça?
Un peu plus, je crois même, maintenant, et en croissance.
On continue de parler de Science et Vie. Nous sommes avec son nouveau rédacteur en chef, Thomas Cavaillé-Foll. 33 ans seulement, je le dis, parce que c'est assez remarquable. Culture Média continue. En compagnie de Thomas Cavaillé-Foll, il est le nouveau rédacteur en chef de la revue Science et Vie, le premier magazine mensuel en France et l'un des plus anciens aussi. Il a été fondé en 1913. L'un des sujets qui a provoqué la crise qu'a connu le magazine l'an dernier et en début d'année, c'est la gestion de la version numérique du site scienceetvie.com. C'est évident que vous avez un site internet. Deux journalistes scientifiques animaient ce site. Ils ont été remplacés à la fin de l'été dernier par trois chargés de contenu, le terme est important, ce qui a eu pour conséquence la publication de fausses informations. Exemple, le site a publié un article affirmant que la vitamine D protégerait du Covid, ce qui était faux, ce qui est faux. Les journalistes scientifiques qui étaient encore présents dans la rédaction du magazine papier l'ont démontré et l'ont écrit. Est-ce que vous, journaliste, vous êtes à l'aise avec cette stratégie éditoriale, confier le site internet non pas à des journalistes assermentés, patentés, mais des chargés de contenu?
Alors le site internet est donc confié à des journalistes. C'est Karine Zagaroli, donc ma directrice de la rédaction, qui a l'œil dessus. Après,
excusez Pascal Chevalier en 2018, justement, d'où le schisme et d'où le hiatus.
En fait, c'est effectivement les chargés de contenu n'ont pas pour vocation d'écrire des tonnes d'articles. Ils ont pour vocation de mettre en valeur en fait les articles qui sont déjà du magazine.
La question n'est pas d'en écrire des tonnes. La question est d'écrire sur le site internet d'une revue aussi prestigieuse avec une marque aussi prestigieuse que Science et Vie, une information qui est fausse, à savoir la vitamine D protège du Covid.
Alors là, je suis pas d'accord avec vous. En fait, c'était au conditionnel et cette information, je crois, en fait, c'était juste dire qu'il y avait une étude qui qui estimait ou qui disait qu'il y avait potentiellement un lien entre la carence entre vitamine D et les formes graves du Covid. Ça a été fait et repris dans la plupart des médias scientifiques qui sont faits par des journalistes. Et moi, je suis très content qu'on puisse, la science avance à tâtons, en fait. Donc, qu'on puisse se faire l'écho de telle étude et puis revenir ensuite dessus avec plus de force. Et c'est aussi ça que permet le site internet de réagir vite, mais ensuite faire une enquête approfondie pour voir si ça tenait le coup ou pas.
Donc, vous ne regrettez pas cet épisode. Et le fait de l'écrire sur le site et le fait de corriger l'information dans le magazine papier.
En fait, j'étais pas moi dans la rédaction en chef à cette époque. Donc, cet épisode s'est passé. Je n'ai pas à dire que.
Vous pouvez avoir un avis.
J'espère.
Je vais dire les choses différemment. Si c'était à refaire, maintenant que vous êtes le patron, est-ce que vous le referiez?
En fait, je ne sais pas. Je peux pas vous répondre parce que donner de l'écho à une étude en particulier, ça ne me dérange pas. Non. Ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est bizarre de cristalliser le débat sur ce point-là en particulier. En fait.
C'est comme ça que c'est parti.
Oui.
Tout était parti de là. C'est pas, nous, on est une émission média, on ne fabrique pas les événements.
Bien sûr.
Comme ça que ça a été perçu en interne par la rédaction et nous nous sommes fait écho de cette inquiétude de la rédac.
Oui, ça, c'est ce qui a été dit. Après, moi, ça ne me dérange pas non, de pouvoir justement corriger nos propres en fait, erreurs. Ça ne me dérange pas.
Le nombre de cartes de presse, autrement dit, le nombre de journalistes professionnels est passé de 340 à un peu moins de 150 dans les titres de presse rachetés par World Media il y a 2 ans, donc une baisse d'un peu plus de 50%. Est-ce que cela vous inquiète ?
Très franchement, moi, je regarde très peu autour de moi, à part mon propre magazine. Ça ne m'inquiète pas, non, je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus. En tout cas, ce qui se passe dans mon magazine ne m'inquiète pas.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura, vous allez garder le même nombre de journalistes que celui qui était il y a un an ou deux ans? Une baisse de combien?
Non, en fait, je ne pense pas, parce que vu qu'on va recruter de nouveaux pigistes, c'est des gens qui ont vocation à prendre part dans le journal et à réfléchir. Donc
effectif constant?
Effectif constant.
Entre l'ancienne formule et la nouvelle formule que vous allez diriger vous-même ?
Il y aura un peu moins de. En interne, il y aura un peu moins de journalistes, oui.
Vous allez avoir donc un nouveau concurrent, Epsilon. Le premier numéro doit sortir la semaine prochaine. Il est réalisé par d'anciens de Science et Vie, qui sont aussi vos amis pour la plupart, des journalistes avec qui vous avez travaillé. Quelle est votre réaction anticipée à cette nouvelle parution ?
Je suis très excité, très content. En fait, ça montre que le marché marche bien, que le marché va bien, et je leur souhaite tout le bonheur possible. Moi, ça me dérange, je ne me sens pas, en tout cas, fragilisé ou apeuré face à cette nouvelle. Au contraire, c'est une super chose. Il va y avoir une belle émulation, et ça va faire des articles meilleurs encore.
Merci beaucoup Thomas Cavaillé-Folle. Je rappelle que vous êtes le nouveau rédacteur en chef de Science et Vie. Le numéro de juin est en vente, 4,90€, avec à la une un dossier sur les algorithmes. Peuvent-ils prédire l'avenir ? Peuvent-ils prévenir l'avenir ? Je ne sais pas s'ils savent ce qui va arriver dans Culture.